7h44 à Paris, 6h44 en temps universel. On feuillette à présent la presse africaine. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
À la une, la RDC, la rébellion progresse vers le sud.
Oui, d'après le site d'information congolais Actualité CD, qui s'appuie sur des sources locales, les rebelles de l'AFC M23 se rapprochent de la ville d'Uvira, dans le sud Kivu. Des colonnes de rebelles sont passées à Sangé, sur la route nationale 5, qui a connu des scènes de panique. Des habitants ont préféré aller se réfugier dans les montagnes après avoir constaté l'avancée des rebelles. Sangé est à 35 km d'Uvira, où des affrontements ont eu lieu entre des militaires congolais et les miliciens Wazalendo depuis avant-hier. Et en effet, précise Actualité CD, les militaires congolais et les miliciens Wazalendo se sont repliés à Uvira face à l'avancée des rebelles du M23 et des combats ont donc éclaté entre eux. À la base de ces altercations, les Wazalendo ne digèrent pas le départ de certaines troupes congolaises avec leur matériel de guerre vers Kalemie dans le Tanganyika plus au sud. Bilan de ces affrontements, au moins 17 morts hier et avant-hier. Dans le même temps, poursuit Actualité CD, Uvira s'est vidé de la majorité de ses habitants. Ceux qui restent sont terrés dans leurs maisons. De nombreuses personnes se sont réfugiées au Burundi voisin, tandis que d'autres ont pris la direction de Kalemie ou encore Moba dans le Tanganyika. Hier mercredi, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux montrant des centaines de militaires congolais dans une embarcation au port de Kalundu à Uvira, à destination de la ville de Kalemie.
Les défaites s'enchaînent pour l'armée congolaise, constate également Africa Rabia, site spécialisé sur la RDC.
Hier, la rébellion a continué sa progression éclair donc vers le sud, avec en ligne de mire la ville d'Uvira, sur les bords du lac Tanganyika. L'offensive du M23 ne semble plus rencontrer de résistance de l'armée congolaise et de l'armée burundaise, censée la soutenir. Et en effet, relève Afrique Arabia, les soutiens des alliés de Kinshasa, Burundi, Afrique du Sud, Ouganda semblent de plus en plus incertains. Pour ce qui est du Burundi, précise le site, sans appui suffisant des FARDC, les soldats burundais ont dû décrocher et abandonner la ville avant de se replier vers le sud. Après ce nouveau revers, l'armée burundaise a décidé de retirer une partie de ses troupes. Sur les 10 000 soldats burundais déployés en territoire congolais, combien en reste-t-il aujourd'hui ? Difficile de le dire, le Burundi est désormais dans l'attente d'un sursaut de la part de Kinshasa et veut des assurances sur une nouvelle mise en place au sein du commandement des forces armées congolaises.
Et puis, même son de cloche, chez un autre allié de Kinshasa, l'Afrique du Sud pointe encore Afrique Arabia.
Oui, l'armée sud-africaine a perdu 14 soldats dans la prise de Goma et le président Cyril Ramaphosa est fortement chahuté en interne par son opposition sur son engagement militaire auprès de la RDC. L'Afrique du Sud a écrit récemment au ministère des Affaires étrangères congolais pour se plaindre de l'attitude des soldats congolais sur le champ de bataille. Pretoria a également conditionné le niveau de son assistance militaire à des changements importants au sein des forces armées congolaises. Félix Tshisekedi se doit donc de rassurer ses deux alliés pour obtenir un engagement militaire plus fort. Le souci, relève le site, c'est que le président congolais a déjà remanié plusieurs fois sa chaîne de commandement sans résultat sur le terrain. La recherche d'un nouveau casting vire donc au casse-tête.
En attendant, Félix Tshisekedi continue de frapper à toutes les portes, s'exclame le pays au Burkina.
Oui, le pays qui croit savoir qu'après le Burundi, après l'Afrique du Sud, après l'Ouganda, le président congolais demande maintenant l'assistance militaire du Tchad. Et le quotidien ouagalais de s'interroger, ne gagnerait-il pas à descendre de son piédestal et à accepter enfin de dialoguer avec toutes les parties, y compris le M23, qu'il ne peut pas voir même en peinture. C'est l'option que de nombreux médiateurs, de Nairobi à Dar es Salaam, en passant par les hommes d'église en RD Congo, ont proposé pour espérer sortir le pays de l'ornière.
Frédéric Couteau pour la revue de presse africaine. Il est 7h48 à Paris, à la une de l'actualité ce jeudi 20 février.
RFI, toute l'actualité, Marion Cazanov.
L'avancée du M23 soutenue par le Rwanda dans l'est de la RDC. Après Bukavu, il se dirige vers Uvira, la deuxième plus grande ville du sud Kivu. Réuni une nouvelle fois en urgence hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a dénoncé les violences dans la région. Le Hamas doit restituer aujourd'hui 4 corps d'otages israéliens morts en captivité à Gaza. Ce sera un jour bouleversant, a réagi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le président américain de plus en plus véhément face à son homologue ukrainien qu'il a traité hier de dictateur. Donald Trump, en parallèle, semble se rapprocher de la Russie et estime qu'elle a les cartes en main pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Son émissaire Kiskelog est arrivé hier à Kiev où il va rencontrer Volodymyr Zelensky. Et puis la mort d'une figure du cinéma africain, Souleymane Cissé, le réalisateur malien, est mort hier à Bamako. Il avait 84 ans. Il avait notamment été récompensé au Festival de Cannes en 1987 pour son film Yélène. Le Conseil de sécurité de l'ONU, une nouvelle fois réuni en urgence sur la situation en RDC. Il a dénoncé à nouveau les violences dans l'est du pays et appelle le M23 et l'armée rwandaise à cesser les combats. Ces dernières semaines, de nombreux acteurs tentent d'apaiser la situation, notamment l'Église catholique et les protestants congolais. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, fait partie de la délégation religieuse qui s'est rendue à Goma récemment. Ces religieux ont rencontré ces derniers jours le président rwandais Paul Kagame, le président kényan William Ruto ou encore Corneille Nanga, coordinateur de l'AFC M23. Monseigneur Cholet revient sur son initiative. Il est ce matin l'invité de Lisa Fabian.
Monseigneur Donatien Cholet, bonjour.
Bonjour.
La semaine dernière à Goma, vous avez rencontré Corneille Nanga, le coordinateur de l'AFC M23. Après cette rencontre, ses troupes, appuyées par l'armée rwandaise, se sont emparées de Bukavu. Était-il utile de le rencontrer ?
Oui, nous estimons que c'était très utile de le rencontrer parce que pour nous, la solution militaire n'en est pas une. L'idéal serait que les Congolais s'assoient autour d'une table et qu'ils trouvent un consensus national autour de leurs différends plutôt que de s'engager dans une voie qui fait autant de morts, de pertes non seulement en vies humaines mais aussi aux infrastructures nécessaires pour le développement du pays.
Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur le bilan que vous avez pu tirer de l'échange que vous avez eu avec Corneille Nanga ?
Nous sommes allés le convaincre de la nécessité d'un dialogue et ils ont été ouverts à l'initiative. Ils ont promis d'envoyer leur cahier de charges assorti des conditions pour qu'ils participent à ce dialogue. Pour nous, c'était déjà une ouverture. C'est la même démarche qu'on a faite auprès des autres acteurs sociopolitiques du pays pour le même objectif. Évidemment, on aurait souhaité qu'on puisse arrêter les combats sur le terrain. Ça nous inquiète qu'on continue encore à se battre et que du côté de Kinshasa, il y a encore aussi des voix qui parlent en termes de résistance, en termes de militaires. Ça, vraiment, nous décourageons. Pour arriver à une solution pacifique comme nous la proposons, il faut des signaux de part et d'autre. Il faut vraiment un engagement formel et de la part de M23 et de la part de Kinshasa. Il faudra pas que M23 considère que ce qu'on leur demande, c'est pour laisser le temps à l'autre camp de s'organiser. Il ne faudra pas que de l'autre côté de Kinshasa, on considère les négociations comme une faiblesse. Non, la guerre n'est vraiment pas une solution pour nous.
Vous avez également rencontré dans la foulée le président rwandais, Paul Kagame. Qu'avez-vous tiré de cette rencontre ? Pouvez-vous nous en dire plus ?
Bon, d'abord, l'écoute, il nous a écouté, il nous a donné suffisamment de temps. Il a encouragé l'initiative, surtout qu'elle est pastorale, pour reprendre ce mot, là où les politiciens n'ont pas réussi à trouver une solution. Et il a promis son implication à tout ce qui va dans le sens du dialogue, son soutien, pour qu'on en finisse avec ce conflit. Nous allons proposer quelque chose tenant compte et de la réalité et des avis des uns des autres. C'est en ce moment-là qu'on verra les vraies intentions des uns des autres.
Mais vous, votre souhait, c'est donc de pouvoir organiser une rencontre qui intégrerait l'AFC M23 ?
Absolument, parce que c'est une partie du problème aussi, on ne peut pas le mettre de côté. Corneille Nanga et les autres sont des Congolais, ils ont pris les armes, ils doivent expliquer aux autres Congolais que nous sommes, pourquoi, et les autres Congolais doivent aussi voir avec eux qu'est-ce qu'il faut pour trouver des solutions sans la guerre.
Monseigneur Donatien Cholet, les représentants de la CENCO et de l'ESCC ont aussi échangé avec William Ruto, le président du Kenya. Il est également président en exercice de la Communauté d'Afrique de l'Est. Comment votre initiative s'intègre-t-elle dans la dynamique sous-régionale et comment s'articule-t-elle avec les processus de Luanda et de Nairobi ?
C'était ça d'ailleurs l'objet de la rencontre parce que au niveau national, nous espérons, avec la bonne volonté des acteurs sociopolitiques, arriver à un consensus qui sera la voix du Congo par rapport à la gouvernance interne, mais aussi par rapport aux relations avec le voisin. Et pour cela, la dynamique nationale a besoin de l'appui de la sous-région. Donc concrètement, après le consensus qui sera dégagé, ce ne sera plus la voix du président Tshisekedi qui sera entendue, mais c'est la voix des Congolais unis. Ça aura déjà un autre poids. Et la communauté politique sous-régionale devrait en tenir compte, voir comment intégrer ça dans le pourparlers de la sous-région. L'idéal pour nous, c'est à la fin de tout qu'on obtienne une conférence internationale pour la paix en RDC dans les Grands Lacs.
Monseigneur Donatien Chollet du CENCO, invité de Lisa Fabian. Dans quelques minutes sur RFI, le retour de l'actualité internationale. Mais d'abord, on vous retrouve, Maman. Vous remarquez ce matin que les grands ne veulent plus jouer avec les petits.
Oui, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient dans la cour de récré. Notre chère et tendre cour de récré, avec ses va-t-en-guerre et ses minuit-quoi, ses drones et ses troupes au sol. Aujourd'hui, dans la cour de récré, ce qui devait arriver est en train d'arriver, comme on l'avait prévu et redouté. Ce qui devait advenir vient d'advenir en plein milieu de la cour de récré, comme un éléphant dans un jeu de quilles, comme une météorite sur un troupeau de dinosaures, comme Donald Make America Great Again qui revient, again, en tant que boss du carré VIP après 4 ans. À jouer au golf et à préparer sa vengeance. Petit rappel pour les nouveaux venus et pour les anciens à la mémoire courte et saturée. Notre chère et tendre cour de récré, comme toutes les cours de récréation de toutes les écoles du monde, tu vois les enfants s'ébrouiller, crier, jouer en courant. Tu crois que c'est un désordre, mon ami Kenenni? Tout est ordonné, sous contrôle. Chacun sait où est son territoire, chacun sait où aller et où s'arrêter. Des frontières invisibles sont tracées, uniquement visibles des yeux des initiés, ceux qui savent. Là, au centre de la cour de récré, il y a le carré VIP, de son nom d'artiste, la communauté internationale, avec son nouveau boss, Donald, et ses repéros, Manu, le jeune homme de 47 ans, Kerr de London, Olaf, le futur viré, Georgia, etc. En face, de l'autre côté de la cour de récré, on a la bande rivale du carré VIP, c'est-à-dire le préau, avec ses boss, Vlad le Costaud, et Xi Jin, Maître Shaolin et tous les porte-flingues, Hassan de Téhéran, Recep d'Istanbul, Kim le Ouf, etc. Alors, qu'est-ce qui a changé dans la cour de récré depuis le retour de l'homme aux cheveux orange? On se souvient que Vlad le Costaud, ceinture noire de judo, a nuitamment fait irruption dans le jardin de Z de Kiev pour un pique-nique sauvage, poussant Z de Kiev à se réfugier dans le salon d'où il observe les dégâts à travers la baie vitrée. Puis il a urgemment appelé ses grands frères au secours. Oui, ses grands frères du carré VIP, Joe le boss, Manu et compagnie, qui décidèrent alors de punir Vlad le Costaud à défaut de le faire déguerpir dardard du jardin de Z de Kiev. Sanctions à pagaille et demi, gel des avoirs et des milliards des oligarques, confiscation des maisons et des yachts, boycott total des entreprises et des sportifs, envoi d'armes et de soldats déguisés en mercenaires. Bref, le carré VIP a montré les muscles. Le problème est que les muscles là-bas, c'est pas les muscles de Manu, Kerr, Ursula et compagnie. Non, c'est les muscles de Joe le boss. Du coup, quand la bise fut venue, quand Joe mordit la poussière face à Donald, Make America Great Again, ce dernier décida de reprendre les muscles. Et les repéreux du carré VIP se trouvent aujourd'hui fort dépourvus. Bah oui, les grands de la cour de récré, Vlad et Donald, ont décidé de jouer entre grand, reléguant les petits là-bas dans l'air de jeu entre le bac à sable et le toboggan. Eh oui, on dirait bien que notre chère est en cours de récré et en train de vivre sa tectonique des plaques au détriment du carré VIP. À lundi.
À lundi, Maman. À suivre sur RFI, un nouveau journal. On parlera de la rétrocession de la base militaire française de Port-Boué en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, il est 7h58 à Paris. 6h58, pardon, en temps universel.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Le MMA, ou arts martiaux mixtes, est un sport de combat de plus en plus médiatisé dans le monde. Malgré une réputation sulfureuse, ce spectacle venu des États-Unis est entré de plein pied dans le sport business. Quelles sont ses recettes et qui en bénéficie? On en parle avec nos invités.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Rencontre avec Simone Bitton. Dans son dernier film, Les mille et un jours du Hadj Edmond, la réalisatrice adresse une missive cinématographique à Edmond Amran El-Maleh, écrivain disparu en 2010, et elle poursuit son voyage sur les traces des Juifs du Maroc, une identité qui disparaît.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI. L'épopée des musiques noires.
Pour de nombreux Afro-Américains, le gospel ne doit pas se détourner de ses valeurs sacrées. Quand Annie Caldwell-Brown s'est aperçue que sa fille aînée chantait le blues, elle a immédiatement réagi en incitant ses enfants à se tourner vers le Seigneur. Elle a créé un orchestre familial pour veiller sur l'éducation musicale de sa progéniture. L'album Can't Lose My Soul, fruit de cette exigence parentale, est à découvrir avec Joe Farmer dans l'épopée des musiques noires, ce samedi à 13h31.
RFI. La chaîne WhatsApp de RFI compte désormais 2 millions d'abonnés.
Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à consulter sur votre téléphone nos résumés de l'actualité internationale, nos analyses et notre sélection des meilleures émissions de RFI.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre engagement.